Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission autour des actualités du SEL et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est le sujet de la campagne du SEL actuellement autour du thème de l'action face aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité et à l'aide aux plus vulnérables. Et pour parler de ce sujet, je suis d'une part avec Nicolas Fouquet qui est chargé de mission éducation au développement au SEL et avec Sarah Lunianga qui est chargée de communication au parrainage. Nous allons commencer avec Nicolas Fouquet pour aborder la question de la pauvreté et de la vulnérabilité un peu d'un point de vue théorique. Et peut-être la première question que j'aimerais poser, c'est on parle de pauvreté. Tout un chacun a des représentations plus ou moins vagues de ce que c'est que la pauvreté. Mais au fond, de quoi parle-t-on quand on parle de pauvreté ?
Oui, effectivement, c'est un terme qu'on a l'habitude d'utiliser ou bien d'entendre. Nous-mêmes, au SEL, on dit qu'on agit, qu'on lutte contre la pauvreté, mais on était intéressé ces derniers temps de pouvoir réfléchir un petit peu plus à ce qu'on met derrière cette notion, comment on la définit. Et c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir un peu des approches différentes. Si on cherche à regarder une définition que donne un dictionnaire, on peut aller voir dans le Larousse, par exemple, la définition de la pauvreté qui donnait, c'est de dire que ça correspond à l'état de quelqu'un qui a peu de ressources financières, peu de biens. Mais on voit qu'avec une définition comme ça, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. C'est-à-dire, est-ce que la pauvreté, c'est juste limité à des ressources financières? C'est juste quelque chose qui a une dimension monétaire? Et puis au-delà de ça, si on dit que voilà, la pauvreté, c'est l'état de quelqu'un qui en a peu, comment est-ce qu'on mesure ce peu? Comment est-ce qu'on le quantifie? Donc voilà, c'est un terme qui peut revêtir différentes définitions. Et puis en même temps des définitions qui peuvent aussi soulever des questions.
Alors justement par rapport à la mesure de la pauvreté, on entend parfois des chiffres qui permettent de dire combien de personnes vivent dans la pauvreté, que ce soit au niveau d'un pays comme la France, ou que ce soit dans le monde de manière plus générale. Comment est-ce qu'on s'y prend pour mesurer la pauvreté? Quels sont les critères? Comment est-ce qu'on détermine l'ampleur de la pauvreté, de la vulnérabilité, de l'extrême pauvreté s'il faut employer ce terme?
Alors, il y a différentes mesures qui sont utilisées pour chercher à quantifier la pauvreté. On parle en général de l'établissement de seuil de pauvreté. Et en fait, on peut se rendre compte que les outils ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Grosso modo, schématiquement, on distingue un petit peu deux types de mesures de la pauvreté. Et habituellement, certains outils sont plutôt utilisés dans les pays en développement, alors que d'autres sont plutôt utilisés dans des pays développés comme dans l'Union européenne. Et donc, il faut garder à l'esprit que ça reste des indicateurs statistiques qui donnent un aperçu de la pauvreté, mais en même temps, qui reste approximatif. C'est pas non plus une science exacte, c'est-à-dire qu'il y a des partis pris qui sont faits quand on cherche à mesurer la pauvreté. Et donc, on a d'un côté des seuils qui sont absolus, des seuils de pauvreté absolus, c'est dans le cas des pays en développement, et des seuils qui sont relatifs, appelés relatifs pour le cas des pays développés.
Alors, on va peut-être se concentrer sur les pays en développement, puisque c'est là que le SEL soutient des actions. Quel est le seuil qui est utilisé pour définir la pauvreté dans les pays en développement? À partir de quel seuil on est considéré comme pauvre?
Alors là, en général, c'est le travail de la Banque mondiale qui fait assez référence sur cette question-là pour le cas des pays en développement. Et donc, on utilise, comme je le disais précédemment, un seuil de pauvreté absolu pour mesurer la pauvreté dans ces pays. Et en fait, on va chercher à définir une valeur fixe, donc qui ne bouge pas, et qui correspond à peu près à ce dont les ménages ont besoin pour pouvoir satisfaire à leurs besoins élémentaires. Et donc, d'après la Banque mondiale, le calcul qui a été fait, ça donne un seuil d'extrême pauvreté qui est fixé à 1,90 $. Donc ça, c'est depuis 2015. 1,90 $ par jour et par personne. Et donc, si quelqu'un a moins que cette somme-là, eh bien, alors on peut considérer qu'elle vit dans l'extrême pauvreté.
Est-ce que ce seuil permet de tout dire. Est-ce qu'il est pertinent? Comment est-ce qu'on peut le commenter?
C'est un seuil qui a sa pertinence, puisqu'il permet de donner au moins voilà, un aperçu d'une certaine réalité. En même temps, ça reste voilà, un chiffre qui est avancé avec un certain côté arbitraire aussi. Par exemple, ben, dans les années qui précédaient 2015, justement, le seuil était fixé à 1,25 $ pour signifier cette extrême pauvreté. Il a évolué pour tenir compte un petit peu des fluctuations, des évolutions du coût de la vie et puis coller à la réalité. Donc les ajustements qui sont faits cherchent justement à coller à la réalité, à donner une vision plus juste de la pauvreté, mais témoignent aussi du fait que il y a une part d'arbitraire. Ça reste des indicateurs qui sont statistiques, qui ont leur importance, mais en même temps qu'il faut aussi voilà relativiser.
Alors ce sont des chiffres qui permettent de se faire une première idée de la situation dans le monde. Ce sont des chiffres qui permettent parfois pour les décideurs de prévoir, de planifier. Il faut jamais oublier que derrière ces chiffres, il y a des personnes réelles, des histoires. Et je vais me tourner vers Sarah pour parler un peu de certaines histoires de pauvreté dans des pays en développement, en particulier dans le contexte du parrainage. On va peut-être parler de l'histoire de ce Collins. Là, on est dans un contexte de grande pauvreté. Né dans le sud-ouest de l'Ouganda, la plus grande partie de sa communauté vit avec moins d'un euro par jour. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblait concrètement la pauvreté pour lui ?
Alors bonjour, merci pour l'invitation premièrement. Oui, effectivement, Collins et sa famille vivaient dans une situation d'extrême pauvreté. Il faut savoir que à l'âge de 5 ans, Collins a perdu son père et du coup, sa mère a dû élever seule ses 6 enfants. Étant donné qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'elle était au chômage pour le coup, la seule source de revenus et de nourriture se trouvait dans le petit potager qu'elle cultivait. Et en fait, le souci, c'est que souvent, elle faisait face à deux difficultés. Premièrement, c'était les maladies des plantes ou alors les insectes qui pouvaient détruire ses récoltes. Et deuxièmement, avec le peu parfois qu'ils récoltaient, c'était des personnes qui volaient justement le peu qu'ils avaient. Ils ont donc souffert de beaucoup de pauvreté et de ses conséquences. Par exemple, pour le cas de Collins, c'était la malnutrition qui a aussi généré d'autres maladies. Il y avait aussi les maladies tropicales comme la malaria, mais il y avait aussi le fait que, étant donné que sa mère n'avait pas de revenus, elle ne pouvait pas inscrire ses enfants à l'école. Du coup, Collins s'était déscolarisé et vraiment son avenir était incertain, voire impossible à réaliser.
On voit que la pauvreté touche aux besoins de base, comme la nourriture, comme la santé. On pourrait aussi parler du logement. Et je pense que tu as une histoire à nous raconter qui a rapport avec un logement, avec une personne qui s'appelle Bethlehem.
Exactement. Bethlehem est une jeune adolescente de 16 ans, orpheline, mais qui a été élevée par sa grand-mère. Et même si elle vivait dans la pauvreté, elle avait toujours trouvé dans son foyer, dans la maison de sa grand-mère, un refuge où elle pouvait se réfugier, trouver la paix et la joie. Et tout a basculé pour elle le jour où sa grand-mère est décédée. Lorsque sa grand-mère est décédée, les personnes de la communauté, dans l'entourage, ont décidé de vendre cette maison à d'autres personnes. Et Bethlehem, qui n'avait plus personne sur qui compter, s'est retrouvée exposée à l'expulsion. Et elle était vraiment désespérée parce qu'elle se disait « Je suis seule, j'ai 16 ans, je n'ai personne, ma grand-mère vient de partir, comment est-ce que je pourrais survivre, qui pourra me soutenir ?»
Donc on voit les situations concrètes que peuvent vivre des personnes qui sont dans la pauvreté et on voit que le mot « vulnérabilité » n'est pas exagéré, c'est bien de ça dont il est question. Mais revenons à Collins, qu'est-ce que le parrainage a changé pour lui ? Parce que c'est un enfant dont la route a croisé celle des structures de parrainage d'enfants, de compassion avec qui le SAL collabore.
Alors effectivement, pour la mère de Collins, mais pour Collins en particulier, la rencontre avec le centre d'accueil de compassion Ouganda a été un véritable miracle pour lui. Grâce au parrainage, donc il a pu bénéficier de soins médicaux. Il a également pu être accompagné au niveau scolaire. Lui qui n'avait jamais été à l'école, il a pu avoir accès à l'éducation et poursuivre ses études avec brio. Il a également pu être accompagné au niveau social et psychologique. Étant donné qu'il est orphelin, il se dénigrait et pensait que, étant donné qu'il était seul, sans père, il n'avait aucun avenir. Et le fait d'être accompagné non seulement par les l'équipe du centre d'accueil, mais aussi ses parents. Ça a également élevé son estime de lui-même et ça lui a permis de croire que lui aussi pouvait avoir un avenir.
Est-ce que dans le parrainage, il y a bien sûr l'échange de lettres. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de l'importance des lettres dans un contexte de pauvreté ?
Alors, les lettres des parrains sont vraiment les plus précieuses. On dit souvent aux parrains que les lettres qui comptent le plus, ce sont les leurs et celles qu'ils envoient aux enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants sont dans un contexte de pauvreté où ils vivent dans une mentalité où ils ne pourront jamais sortir de ce cycle de pauvreté. Ils vivent dans un environnement où tout le monde est désespéré et pour eux, ils ne peuvent s'imaginer qu'il y a un moyen de se sortir de cette situation. Et le fait de recevoir les lettres des parents, des lettres d'encouragement qui leur dit « Je crois en toi, tu as un avenir, tu as de l'espérance, tu es intelligent, tu as de la valeur », ce sont des mots qui reconstruisent leur estime d'eux-mêmes et qui leur permettent de se relever. Et souvent, quand ils font face à des découragements, c'est souvent ces lettres qui leur donnent le courage et la force de persévérer et de croire qu'ils peuvent sortir de la pauvreté.
Dans ces situations de pauvreté, l'enfant qui est parrainé bénéficie de l'activité d'un centre de développement de l'enfant et ce sont des gens qui se préoccupent des besoins de chaque enfant. Dans le cas de Bethléem, ça a été la mobilisation générale.
Exactement. Plusieurs personnes de sa communauté pensaient que, étant donné qu'elle est orpheline, ce serait vraiment facile pour eux de l'arracher de cette maison qui avait été son foyer. Mais c'était sans compter sur l'équipe de son centre d'accueil qui s'est levée comme un seul homme et qui a dit « Nous croyons en la protection de l'enfant et nous croyons que même si elle n'a plus sa grand-mère, elle nous a nous et nous avons une voix et nous pouvons parler pour le droit de l'enfant, pour son droit à elle. »
Alors, dernière question rapidement. Quelles sont les perspectives que le parrainage ouvre pour la suite pour un enfant qui vit dans la vulnérabilité ?
Alors, l'avantage du parrainage, c'est que ce n'est pas juste un accompagnement qui est actuel, présent, mais il pense également à l'avenir de l'enfant. Ça passe par des formations, par l'éducation, ça passe par un accompagnement pour aider l'enfant à rêver pour l'avenir et lui permettre de lui aussi devenir un acteur de liberté, de la pauvreté pour les personnes qui l'entourent.
Merci beaucoup Nicolas, Sarah, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Alors pour aller plus loin et pour passer à l'action, par exemple en parrainant un enfant, vous pouvez vous rendre sur le site internet du CEL, www.celfrance.org, et vous y trouverez toutes les informations sur la manière dont les partenaires du CEL luttent au quotidien pour faire face à des situations de vulnérabilité, et vous y trouverez l'occasion de parrainer un enfant dès aujourd'hui. Il y a des enfants qui attendent un parrain ou une marraine et que vous pouvez choisir de parrainer dès aujourd'hui en vous rendant sur le site internet du CEL. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.